Si je pouvais donner un titre, ce serait « Pouvons-nous expérimenter le renouvellement aussi dans nos relations personnelles ?» Alors je dis aussi parce que voilà, le renouvellement dans nos vies, Jésus nous y invite, mais je me rends compte qu'il y a peut-être des domaines, en tout cas je parle pour moi, il y a peut-être des domaines dans lesquels c'est plus compliqué. Et voilà, disons que c'est sous cet angle-là que j'ai envie de partager certains versets cet après-midi. Alors je vais opposer deux textes. Comme ils sont dans la Bible, ils ne devraient pas s'opposer, mais on va dire qu'ils peuvent aussi déterminer deux façons de penser. C'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le verset 9 du premier chapitre dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et cette phrase d'Ecclésiaste, je pense que tout le monde connaît cette phrase sans savoir qu'elle est issue de la Bible. Rien de nouveau sous le soleil, on entend ça dans la bouche de plein de gens. Et ce rien de nouveau, en fait, l'Ecclésiaste le décline et nous montre à quel point ça concerne énormément de domaines. Quand c'est développé dans le livre, c'est du cœur de l'homme dont il s'agit, de façon générale. Notre cœur est mauvais, il n'y a pas d'espoir d'amélioration. En tout cas, on essaye et puis on se rend compte que c'est pas durable. Et il parle énormément des relations entre les personnes, il parle des rivalités,
bonjour,
il parle des injustices, il parle des disputes. Et moi, c'est un texte qui m'interpelle souvent, parce que si on le sort de son contexte global, de qui était l'Ecclésiaste et pourquoi il écrit, et en son temps, pourquoi il écrit ça, en fait, ça peut nous conforter dans des étapes de nos vies ou des domaines de nos vies où on est un peu désabusé. On est fataliste, on est pessimiste. Voilà, on croit que toutes choses sont nouvelles, mais il y a quand même des choses où ça bouge pas, et en particulier nous-mêmes, on bouge pas. Donc ça peut être un premier niveau de lecture, mais il faut pas oublier que l'Ecclésiaste, lui, il vivait et il a écrit avant la révélation de Jésus. Et donc quelque part, on peut comprendre son fatalisme. Et malgré ça, à la fin du livre, il invite vraiment à plusieurs reprises à tourner les yeux vers Dieu, et il proclame la souveraineté de Dieu. Il y a plein de versets, mais juste pour en citer un à la fin, « Ce que Dieu a fait demeurera pour toujours. Dieu fait toutes choses belles en son temps, et il nous invite, sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. » Donc il y a cette première partie où rien de nouveau sous le soleil. Et si on s'arrête là, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'espoir, c'est pas facile de lever les yeux. Et en fait, pour nous aujourd'hui, tout est nouveau. Donc on a le privilège de vivre après la révélation de Jésus sous l'ère de la grâce. Et ce rien de nouveau de l'Ecclésiaste contraste avec, en fait, tout est nouveau pour nous avec la venue de Jésus. Donc sans relire tous les versets, j'ai relevé un certain nombre de domaines dans lesquels c'est nouveau. On a une nouvelle alliance qui nous est proposée. Il y a un nouveau commandement qu'on trouve dans Jean 13, « Aimez-vous les uns les autres ». Il est parlé d'une nouvelle naissance. Il est parlé dans Luc et dans Actes d'une nouvelle doctrine. Paul nous parle d'une nouveauté de vie et de mener une vie nouvelle. Il nous parle d'un esprit nouveau. Toujours Paul, dans Corinthiens, nous parle d'une nouvelle créature. Et dans Éphésiens et Colossiens, il nous parle de l'homme nouveau. Et toutes ces nouveautés, en fait, il y a des nouveautés qui sont notre position en Christ qui est à saisir, mais il y a aussi, c'est souvent quand même mis avec un verbe d'action, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire pour que cette nouveauté devienne une réalité dans notre vie. Ça veut dire que cette nouveauté, il faut aussi se l'approprier, et on a des choses à mettre en marche dans notre vie pour ça. Par exemple, je vous donne un commandement nouveau, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Donc on a quelque chose à faire, c'est conjugué. Dans la nouvelle naissance, c'est aussi c'est croire. Il y a quelque chose à mettre en œuvre. Paul, dans Romains 6, 4, dit « Afin que nous menions une vie nouvelle ». Donc, il y a aussi quelque chose à mettre en pratique. Il y a se revêtir de l'homme nouveau. Donc, tout ça contribue à se dire oui, il y a des nouveautés, mais c'est pas un statut dans lequel je vis. C'est j'ai aussi quelque chose à j'ai à rentrer dans cet univers et à m'approprier des choses. Et on va voir après qu'il y a des, il y a des conseils pratiques pour vivre dans cette vie nouvelle. Et puis après, je voulais quand même souligner, même si c'est pas exactement le sujet de, d'aujourd'hui, mais c'est quand même notre espérance, au-delà de tout ce qu'on a à vivre. On a des nouveautés à vivre aujourd'hui, mais elles sont pour des nouveautés dans le futur, dans un autre univers, dans un autre monde. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous aurons un nom nouveau. On chantera un cantique nouveau, il y aura une nouvelle Jérusalem. Et voilà, ça nous emmène vers des belles choses. Et en pratique, une fois qu'on a posé ce rien de nouveau qui s'oppose à tout est nouveau, en pratique, comment on vit ça dans nos relations personnelles? Est-ce qu'il est possible d'expérimenter tout ce renouvellement dans les relations? Alors, quand je dis les relations personnelles, je pense... des relations qui, de gens qui nous sont proches, c'est-à-dire qu'on connaît, ça peut être des gens de notre famille. Alors dans notre famille, il y a peut-être, on vit peut-être dans une famille chrétienne, comme on vit peut-être dans une famille où on est le seul croyant. Mais ça n'empêche que c'est notre famille avec laquelle on a des relations. Ça peut être des amis, des gens qu'on aime. Dans ces amis, c'est pareil. On peut être, il peut y avoir une amitié entre deux croyants, mais il y a peut-être des amitiés anciennes avec une personne qui est, quand je dis ancienne, qui date depuis quelques années, qu'on a conservé, qu'on entretient, mais avec des gens qui, avec qui on partage pas ce même socle, mais on a quand même des relations. Comment on fait pour vivre ces relations? Et puis ça peut être des collègues, des gens qu'on connaît. Et je pense qu'il y a un moment, il y a un univers où on connaît tellement bien les gens depuis si longtemps, et en particulier famille et amis, que on a l'impression que dans le fonctionnement humain qu'on a, nous, on sait comment on réagit. On se connaît tellement bien qu'on sait aussi comment l'autre va réagir. On a presque un regard de... toute façon, c'est un peu prévisible. Il y a des choses qui sont prévisibles. Et dans nos conflits, dans nos désaccords, sans que ce soit forcément des choses sévères, hein, sans que ce soit des esclandres ou des disputes irréversibles. Mais je me dis qu'on a quand même deux façons possibles de voir les choses et qui vont donner des conséquences très différentes. Dans nos relations, on peut se dire rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, alors l'autre, hein, c'est plus facile d'incriminer l'autre déjà. L'autre, ça se passe toujours comme ça. Je la connais, je sais que ça va être comme ça. Elle prend jamais en compte ce que je dis. On est fataliste sur le comportement de l'autre aussi parce que on se connaît, on a les mêmes travers. Il faut avouer que notre chair est là et notre chair ne fait rien de bien et rien de mieux, comme l'Ecclésiaste dit. Là, c'est vrai. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil par rapport à ça. Et finalement, les sources de tension qu'on peut traverser avec une ou un collègue, quelqu'un de très proche dans sa famille ou une amitié, finalement, la vérité, c'est que nos travers sont là et que les points d'achoppement sont toujours un peu les mêmes. C'est un constat. Et il y a aussi, nous, de notre côté, c'est que ce pessimisme ou ce fatalisme, il peut aussi toucher notre propre comportement et nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est aussi dans... on s'inscrit, quelquefois, on se voit dans ce rien de nouveau. J'ai encore raté une occasion de me taire. J'ai encore blessé cette personne alors que je ne voulais pas le faire. J'ai encore... on s'inflige aussi ça à nous-mêmes. Et dans les deux cas, c'est pas le regard que Dieu veut avoir ni sur nous, ni sur l'autre, parce que l'autre est aussi un enfant de Dieu, qu'il le soit déjà aujourd'hui ou un enfant potentiel en devenir, et encore moins sur la relation et la façon d'interagir. Et en fait, il y a une autre route pour regarder nos relations. Hébreux 10:20 nous dit « On vit sur une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous ». Et on peut être sur cette route. Alors sur une route, on avance. Hein. C'est une route, c'est pas un point de chute, c'est pas quelque chose de statique. C'est un embranchement qu'on a pris avec Jésus, puisque c'est Jésus qui a inauguré cette nouvelle route. Et au lieu de ce rien de nouveau sous le soleil et de vivre figé dans ces tensions, en fait, pas forcément des conflits, mais dans nos blessures. On est blessé, on a blessé l'autre, l'autre est blessé et on le sent, on le sait, mais on le dit pas. Enfin, tous ces nœuds de relations humaines qui font que, oui, c'est dur à vivre et en fait, on ne sait pas toujours comment en sortir. Soit on est figé dans ce rien de nouveau, soit on se dit, ok, il y a une route nouvelle possible. Et en pratique, comment c'est possible ? Je pense qu'en fait, on a des décisions à prendre. Et il y a aussi des conseils dans la Bible à suivre qui sont de notre ressort. Dans une relation à deux, en fait, on ne peut pas s'occuper de l'autre. La façon dont réagit l'autre ne nous appartient pas et la façon dont l'autre va cheminer ne nous appartient pas. En revanche, la façon dont nous, on va confier ça à Dieu, la façon dont on va éventuellement... écouter, suivre des conseils, demander à Dieu de faire des choses dans notre cœur, ça nous appartient et ça a un impact. Dans les décisions à prendre, c'est obéir à ce qui est écrit dans la parole. Je pense qu'une des premières choses, c'est croire. C'est en fait croire que c'est possible, croire que Dieu a fait quelque chose de nouveau, y compris dans les interactions qu'on a avec là encore, ça peut être le corps de Christ au sens étroit du corps qu'on pratique, des gens qu'on connaît très bien, mais le corps de Christ au sens plus large, mais aussi de notre famille et aussi des gens qui sont pas croyants avec lesquels on interagit. C'est avoir l'espérance que vraiment le renouveau est possible et qu'il existe et que Dieu le fait. C'est croire que Dieu fait un travail dans notre cœur et que l'autre peut changer sous l'action du Saint-Esprit. Si on ne met pas en œuvre notre foi, en fait, si on n'a pas ce regard de la foi, les yeux de la foi, on va vivre nos relations sous le rien de nouveau. Et le fait de ne pas croire que quelque chose de nouveau va arriver, on ne va même pas voir ce qui peut peut-être même se produire, ce qui est peut-être en train de se produire, nos yeux ne le verront même pas. Et on passera à côté de cadeaux et de... J'allais dire presque de miracles relationnels que Dieu est en train de faire. Donc déjà, croire que c'est possible, mais croire que Dieu fait des changements dans notre vie en premier lieu, croire qu'il nous transforme. On est quelquefois les plus incrédules à notre propre rencontre. La deuxième chose, c'est confier ça dans la prière, c'est croire que dans la prière, Dieu écoute cette prière et Dieu agit quand on lui confie ça. Et dans un troisième registre, je pense qu'il y a aussi des conseils qui nous sont donnés dans la parole pour que nos attitudes soient les plus pures possibles, les plus proches possibles du cœur de Dieu. C'est pas pour autant que la relation avec l'autre va en être résolue. Mais là encore, on a notre part à faire. Et ça peut toucher tous les domaines de nos relations. Je vais juste les citer. J'ai trouvé des références. Alors, il y en a certainement beaucoup plus. Mais j'en ai trouvé en particulier dans Éphésiens 4 et 5. 4, 5, 6 même, je vais dire. Dans Jacques. Dans Proverbes. Et une autre dans Ecclésiaste. Donc, je ne vais pas redonner toutes les références, mais plus les citer. Dans ce que la parole nous invite à faire, c'est d'éviter tout ce qui peut être les éclats de voix, les insultes, l'amertume. Ça peut paraître évident, mais voilà, on est qui on est. Et dans les relations qui peuvent être source de tension, qui peuvent être abîmées, il y a aussi qu'est-ce que j'ai pu déclencher moi-même. Il y a que notre colère s'apaise avant de se coucher. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas été en colère. La colère a eu lieu, en l'occurrence, à les citer. Mais qu'elle s'apaise, ça ne veut pas dire non plus que le problème a été résolu. Mais que notre sentiment de colère intérieure, lui, s'apaise. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très difficile de se coucher avec... quand on vient de vivre quelque chose, quelquefois une heure avant, ou quelque chose qui nous a pesé dans la journée, d'arriver vraiment à décharger ça pour être apaisé. Il y a dire la vérité, tout simplement. Ça peut paraître une évidence, mais voilà, être intègre. Ne pas utiliser d'arguments sans valeur. Alors, ne pas utiliser des arguments sans valeur, on peut dire autrement, ne pas être de mauvaise foi. Il y a un moment, c'est pas la peine de se battre avec des choses qui sont des faux arguments. On peut reconnaître soit qu'on s'est trompé, soit aussi être silencieux. Il y a ne pas exaspérer ses enfants. Alors, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup d'autres personnes que ses enfants ou les enfants qui nous entourent, mais ne pas avoir une position où on est exaspérant. Ça veut dire ne pas faire valoir ses droits dans certaines circonstances. Il y a maîtriser nos paroles et chercher la paix avant tout, être artisan de paix. Dans Proverbe, il est dit aussi de ne pas se mêler d'une querelle qui ne nous concerne pas. Ça peut être même au sein d'une famille, parce qu'on a l'habitude d'interagir. On est quatre dans la même pièce, il y a une étincelle qui part entre deux. Si c'est une parole de paix et d'apaisement, je pense que, voilà, en fonction de ce que le Saint-Esprit nous montre, faut être à l'écoute. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et sur lequel il n'est pas juste d'intervenir dans un premier temps. Ne pas avoir des paroles inconséquentes, c'est-à-dire par exemple des plaisanteries qui en fait ne sont pas des plaisanteries, qui peuvent être acerbes et qui sont sur un ton qui déstabilise l'autre. Ne pas chercher à prouver qu'on a raison. Et ça, c'est un verset qui vient d'Ecclésiaste à nouveau. Plus on augmente les paroles, plus on augmente les frustrations. Et il termine en disant « À quoi cela nous avance-t-il ? » C'est vrai que, voilà, ajouter à ce qui est déjà tendu ne rajoute que de la frustration. Si on fait le bilan un peu de tout ça, ça nous amène à être des personnes parfaites. Là n'est pas le propos, mais je pense que ça peut venir souligner le fait qu'on n'y arrive pas tous les jours, pas tout le temps, pas avec tout le monde, et qu'en fait ça nous coûte. Et si ça nous coûte, c'est ce qui s'appelle porter sa croix, dans le sens de renoncer, souvent, renoncer à se justifier, renoncer à avoir raison, renoncer à avoir une parole de plus parce qu'on a le bon argument au bon moment et il faut qu'on le case, renoncer à prouver, renoncer à avoir peut-être une reconnaissance dans une tension qu'il peut y avoir. Mais se renoncer, c'est vraiment notre part dans la relation. Après, la façon dont l'autre réagit, interagit, c'est aussi à Dieu que ça appartient. Surtout si, alors on peut avoir en face de soi quelqu'un qui se soumet aussi de la même manière au Saint-Esprit, et tant mieux, et les choses vont finir par se résoudre. On peut interagir avec quelqu'un de notre famille, ça peut être un conjoint tout simplement qui n'est pas croyant alors que l'autre l'est, ça peut être avec un collègue. Voilà, quand on est avec un non-croyant ou quelqu'un qui ne va pas aller chercher les solutions en Christ de la même manière, comment on vit ça? Et c'est là que je pense qu'il y a une démarche d'humilité, de prendre sa croix, de renoncer. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs ne rien dire, mais c'est notre part à nous et ça se passe entre Dieu et nous, on a quelque chose à faire. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est de me dire que quand on fait ça, le résultat n'est pas de dire « Ok, j'ai eu une démarche d'humilité, je me la suis fermée, je souffre en silence, j'ai pris ma croix, ok, et puis advienne que pourra, le reste ne m'appartient pas. » Mais en fait, on libère quelque chose et on impacte l'autre dans cette relation. Et je trouve qu'il y a des exemples dans la parole de relations qui ont changé, où c'est finalement l'offensé ou le blessé qui a fait le pas vers l'autre. Et moi, ça m'a beaucoup touchée de revoir ça sous cet angle-là. Je suis interpellée par le nombre de personnes qui ont été du côté des offensés, des victimes, des blessés, et qui, par leur comportement, ont en fait été acteurs du changement dans la vie de l'autre. On va commencer par l'exemple peut-être le plus incroyable, qui est celui de Jésus avec Pierre. Pierre a rejeté Jésus, l'a renié 3 fois. Donc c'est quand même l'exemple suprême de la relation brisée, c'est renié, c'est trahi, Et Jésus a pardonné à Pierre et l'a complètement réhabilité et lui a manifesté son amour, ce qui lui a redonné confiance. Et Pierre est devenu une personne complètement nouvelle. Et voilà, je pense que ça, c'est l'exemple suprême où Jésus a créé quelque chose de nouveau. Il a créé un nouveau Pierre. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du père et du fils prodigue. C'est pas forcément toujours sous cet angle qu'on lit cette parabole, mais l'offensé dans l'histoire, c'était le père. On lui a demandé son héritage de façon brutale. Le fils est parti. Il a cassé quelque chose dans cette relation. C'est lui qui est le père qui est offensé, blessé, alors qu'il a tout donné dans son rôle de papa. Et résultat des courses, il est trahi aussi quelque part dans cette relation. Et finalement, c'est le père qui a fait le premier pas et qui a restauré et qui est sorti de la maison et qui est allé en ouvrant les bras et en courant. C'est l'offensé et c'est le blessé qui a tendu la main. Et qui a généré, parce que même si le fils prodigue il est revenu, il était revenu avec une vision limitée de ce qui pouvait l'attendre. Même s'il avait un espoir, c'était un espoir bien limité dans ce que son père pouvait lui donner. Il pouvait éventuellement être un ouvrier dans sa maison. Et là, c'est l'offensé qui a restauré. Évidemment, il y a l'exemple de Joseph et de ses frères, qui est on sait que Joseph est aussi, c'est une image de Christ. Mais c'est incroyable toute la souffrance que Joseph a eue de la part de ses frères. C'est pas juste une trahison, mais c'est une succession de trahisons qui a été une succession de trahisons par d'autres que ses frères. Mais c'est Joseph qui est l'offensé, qui est le meurtri et qui a toutes les raisons de s'enfermer dans sa souffrance, qui a besoin d'être restauré. Et finalement, c'est lui qui restaure la relation avec ses frères. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et là encore, c'est pas Joseph qui a pu faire ça parce que c'était une personne meilleure qu'une autre. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu faire ce travail. Et si ces exemples existent, c'est parce que c'est possible. Et le dernier exemple que j'ai envie de citer, il est un petit peu plus subtil entre guillemets, parce que c'est pas exactement offensant. Merci. Mais c'est une relation qui existait, une relation qui a été un peu abîmée. Et comment elle a été rétablie? Donc là, on pourrait dire qu'on pourrait comparer, pourquoi pas, à une amitié entre deux personnes croyantes, une amitié ancienne, même si ce sont des âges différents. Je veux parler de Naomi et de Ruth. Tous les textes, dans Ruth, tous les versets qui décrivent la relation entre Naomi et Ruth parlent d'une relation familiale qui est douce. Et depuis 10 ans avec Ruth, il y avait vraiment, c'était certes une belle-mère avec sa belle-fille, mais il y avait quelque chose qui était une belle relation. Et puis elle perd, Naomi est blessée, elle est blessée par la vie, elle perd son mari, elle perd ses deux fils. Elle choisit de repartir, de quitter le pays de Moab et de repartir en Israël. Et Ruth, malgré cette belle relation, quelque part, il n'y a plus les fils de Naomi avec elle. Il n'y a plus ce lien qui pouvait, ce lien de, comment on va dire, de famille directe qui pouvait exister. Et Ruth a fait ce choix de la suivre. Mais je me place sous l'angle de Naomi. Quelque part, Ruth devait incarner aussi tous les jours. Renvoyer à Ruth ses mauvais choix. Renvoyer à Naomi les mauvais choix qu'elle avait fait. Ruth, c'était la Moabite. Le fait qu'elle soit là, ça renvoyait à Naomi le fait qu'elle est partie en pays de Moab. Il y a eu des choix qui ont eu des conséquences. Et elle lui rappelle le malheur de la perte de ses deux fils, son veuvage. Et ce qui a changé, c'est l'attitude de Ruth qui a été une attitude aimante, une attitude de soumission par rapport aux règles de ce pays qui n'était pas le sien. Elle a voulu et elle a dit à quel point elle voulait découvrir le Dieu de Naomi. Elle a été aimante et en soutien à cette femme qui était une femme brisée. Et finalement, l'attitude de Ruth a contribué à transformer et à restaurer Naomi. Parce que Naomi est ensuite devenue une grand-mère heureuse. Et elle, qui s'était surnommée Mara amère, est devenue une femme restaurée. Et Ruth n'aurait pas eu toute cette attitude. Elle n'aurait pas contribué. Enfin, Naomi a vraiment changé aussi grâce à la contribution de Ruth. Et ce que je veux dire en conclusion, c'est que même si nous avons été, même si nous nous trouvons être le blessé, la blessée, l'offensé dans une relation, la balle est quand même dans notre camp face à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui peut créer tous les jours. Il fait quelque chose de nouveau chaque jour. Il fait du neuf. Et il fait du neuf même dans nos relations. Et on n'est pas sous le rien de nouveau sous le soleil, mais sous le tout est nouveau, tout est possible. Et c'est pas juste guérir, corriger, apaiser, restaurer quelque chose qui a pu être déstabilisé, mais c'est véritablement faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter un jour, et Dieu fait vraiment quelque chose de nouveau dans la relation. C'est possible.